Chapitre 13. Où miraculeusement James Gobson échappe à la potence et l'honorable coroner Davis au remords. Par une coïncidence étrange, pendant que se passait au Thames cette scène qui peint exactement les mœurs américaines, on faisait l'inventaire du mobilier de la garde-robe de Miss Ada. Le propriétaire de l'hôtel de la 23e rue, voulant rentrer en possession de son immeuble, la justice avait décidé que tout ce qui avait appartenu à la malheureuse femme serait vendu, et que la somme provenant de cette vente serait tenue pendant 3 ans à la disposition des héritiers. Ce délai expiré, cet argent serait versé dans les caisses de l'État. Le greffier de M. Mortimer, le shérif, présidait à cet inventaire. Mary, qui, nous l'avons dit, avait été adjointe au gardien de la maison, aidait ces messieurs. Il venait de quitter le salon pour passer dans la chambre à coucher et la jeune fille énumérait avec des sanglots dans la voix chacun des objets que le secrétaire de la justice de paix inscrivait sur son interminable liste lorsque les opérateurs entendirent une voiture qui s'arrêtait devant la porte de la maison. « Monsieur le shérif, sans doute, » dit le greffier à Mary. « Il faudrait aller lui ouvrir. »« Le gardien est en bas, » répondit la femme de chambre. « Alors hâtons-nous. » Mais la jeune fille qui venait de tirer de l'une des armoires un paquet de dentelles resta tout à coup immobile et son visage se couvrit d'une affreuse pâleur. Elle entendait dans le vestibule, et le greffier ainsi que son secrétaire l'entendaient comme elle, une voix de femme dont le timbre s'élevait irrité. Puis des pas précipités retentirent dans le salon. La porte de la chambre à coucher s'ouvrit brusquement, une femme apparut, et Mary, l'œil hagard, jeta un cri épouvantable en s'appuyant contre un meuble pour ne pas tomber. « Qu'est-ce que tout cela signifie ?» demanda la nouvelle venue, en interrogeant également du regard chacun des acteurs de cette scène.
« Madame, Miss Ada !»
balbutia la servante. « Miss Ada !» répéta le greffier en bondissant du fauteuil où il était étendu. « Eh bien oui, Miss Ada !» dit la jeune femme. « Est-ce que vous êtes tous fous ? Et toi, l'es-tu donc plus encore que les autres ?» En disant ces mots, elle s'était avancée rapidement vers Mary, qui se jeta dans ses bras en s'écriant
« Je disais bien qu'elle n'était pas morte !»«
Comment morte ?»«
Mais oui, morte !» reprit le greffier à son tour. « On a pendu votre assassin ce matin !»«
Mon assassin ?»«
Oui, James Gobson !»«
James Gobson, mon ancien mari ?»«
Lui-même, qui vous a tué et jeté à l'eau il y a 3 mois ?»«
Tué ? Jeté à l'eau ?» À moins que ce ne soit une odieuse plaisanterie que vous faites là, messieurs, c'est épouvantable. Viens, Mary, courons.
Oh, il est trop tard, observa le shérif. Master Mayer doit avoir fini sa besogne. C'était pour 9 heures au Thames, comme de coutume.
L'américaine jeta un cri d'horreur et s'affaissa sur un siège. Mais elle se releva aussitôt pour s'élancer dans l'escalier et de là dans la rue. Sans prendre le temps de mettre un chapeau et un châle, Mary la suivit. La voiture qui avait amené la voyageuse l'attendait sur le pas de la porte. Elles y montèrent toutes deux, en ordonnant au cocher de les conduire à la prison. Le cheval partit au galop. Mais au moment où, une demi-heure plus tard, elles arrivaient sur la grande place, dont les Thames occupaient un des deux côtés, la voiture se trouva en présence d'une foule si compacte qu'elle dut s'arrêter. « Impossible d'aller plus loin, » dit le cocher. Mary sauta à terre. Elle venait d'apercevoir le capitaine Young, qui s'efforçait avec l'aide de ses agents de dissiper les curieux.
« Capitaine !» lui cria-t-elle. « Au nom de Dieu, laissez-nous passer !»
Serait-il trop tard ? Oh, ces gens m'épouvantent ! Je vous en prie, monsieur, supplia à son tour la jeune femme qui avait rejoint sa domestique. « Quoi, trop tard ?» demanda le chef des détectives de sa voix rude en s'avançant vers ses interlocutrices. « Que voulez-vous ? Il n'y a pas d'exécution aujourd'hui. »«
Comment pas d'exécution ?» s'écrièrent en même temps la maîtresse et la servante. « James Gobson vit encore ?»«
C'est remis à demain. »«
Dieu soit loué !» dit la camériste avec un soupir de soulagement.
« Dieu soit loué ! Qu'est-ce que cela vous fait ?» reprit Young.
« Ce que cela nous fait, capitaine !» répondit Mary. « Voici Miss Ada !»«
Miss Ada ?» exclama le détective. Et après avoir regardé attentivement celle qu'on lui désignait, il ajouta
« My God !» « Miss Ada, my God !»
La stupeur ne lui permettant pas d'en dire plus long, il entraîna les deux femmes dont la foule se rapprochait. Car les plus voisins d'entre eux, les curieux, avaient entendu les quelques mots qui venaient d'être échangés, et ils les répétaient tout haut en se montrant la jeune femme. Les agents livrèrent passage à leur chef qui, après avoir donné un ordre à l'un des hommes, introduisit immédiatement la maîtresse et la camériste dans le préau de la prison, puis de là, dans le cabinet du directeur. M. Peters, qui était courbé sur son bureau, leva la tête à l'entrée bruyante du capitaine et, à la vue de ses deux protégés, ne comprenant rien à cette visite inattendue, il ouvrit de grands yeux.
« Miss Ada Ricard, » dit l'officier. L'intrépide Young n'était pas encore assez remis de sa stupéfaction pour prononcer d'autres mots.
« Miss Ada Ricard ?» redit le fonctionnaire en se levant brusquement. « La femme de... »«
Elle-même, monsieur, » affirma la visiteuse. « La femme divorcée de ce malheureux James Gobson qui a failli payer ce matin de sa vie une épouvantable erreur. »
M. Peters ne fit qu'un bond vers celle qui venait de lui parler ainsi, et, la reconnaissant immédiatement, il ne trouva pas une expression pour rendre son étonnement. Ses regards affolés allaient de l'américaine au chef des détectives qui répétait
« my God, quelle aventure! Je l'avais bien dit à M. Doe !»«
Il faut prévenir immédiatement M. Kelly et Mortimer !» dit enfin au capitaine, M. Peters, lorsqu'il fut un peu revenu à lui.
« J'ai envoyé de suite un de mes agents à l'office central, » répondit Young.
« En attendant, messieurs, est-ce que Miss Ada ne pourrait pas voir M. Gobson ?» demanda la jeune fille.
« Ce serait une cruauté, » ajouta sa maîtresse, « que de le laisser plus longtemps dans l'horrible situation où il se trouve.
»« Vous avez raison, madame, » fit le directeur en se dirigeant vers la porte. « Je n'ai d'ailleurs le droit de refuser aucune visite aux condamnés. »
« Quel scandale! Venez, accompagnez-nous, capitaine !»
Et, passant le premier, M. Peters traversa le greffe pour gagner la partie de la prison où se trouvait la cellule des condamnés à mort. Le brave fonctionnaire allait si vite, hochant la tête et gesticulant, que les deux femmes avaient peine à le suivre. Quant au capitaine Young, qui fermait la marche, grâce à sa construction d'échassier, il ouvrait seulement les jambes un peu plus que de coutume et murmurait.
« Ah, voilà pour l'ami Doe une triste histoire !»
Ils gagnèrent ainsi presque en courant le couloir sur lequel ouvrait la cellule de James Gobson. Lorsqu'il en eut atteint la porte, le directeur se la fit ouvrir par le gardien qui s'était immédiatement approché de lui et il se précipita à l'intérieur. Le prisonnier était toujours dans la position où nous l'avons laissé. Renversé sur sa chaise, il terminait son second cigare. Et le digne M. Midler, qui était à peu près réveillé, psalmodiait avec tendresse.
Oui, mon cher monsieur Gobson, une seconde de repentir de la part du pécheur suffit pour racheter ses fautes et...
Mais l'entrée subite de monsieur Peters coupa la parole au brave méthodiste. Et lorsqu'il aperçut les deux femmes qui accompagnaient le directeur, il se frotta les yeux, s'imaginant peut-être qu'il dormait encore. Quant à James Gobson, à la vue des visiteurs, sa physionomie trahit plus vivement qu'elle ne l'avait fait depuis sa condamnation, une émotion violente. Mais, par un énergique effort de volonté, il ne fit pas un geste, ne poussa pas un cri, et après avoir fixé un instant la jeune femme, il se retourna vers son convive en lui disant d'une voix parfaitement calme.
« Cher monsieur Midler, permettez-moi de vous présenter l'ex-mistress Gobson, Miss Ada Ricard, ma malheureuse victime. »
Le révérend ne pensa plus qu'il dormait. Il crut qu'il devenait fou.
« Pardonnez-moi, James, cet horrible malheur dont involontairement j'ai failli être cause, » dit alors celle que le prisonnier n'avait pas hésité à reconnaître. « Heureusement que je viens à temps. »«
Si Master Meyer ne s'était pas cassé la jambe, vous seriez arrivé trop tard, » répondit le condamné sèchement.
« Je vous en prie, pardonnez-moi, » supplia la jeune femme en s'approchant de Gobson et en lui tendant la main.
« Ma foi, oui, je vous pardonne, puisque vous voilà. » Et se levant, il prit dans les siennes et serra affectueusement les mains de celle qui lui sauvait la vie. Au même instant, le capitaine Young livrait respectueusement passage à un nouvel arrivant. C'était M. Mortimer, que l'envoyé du chef des détectives avait rencontré à quelques pas de la prison. L'honorable shérif était fort pâle, et c'est en balbutiant qu'il demanda à la jolie américaine.
« Vous êtes Miss Ada Ricard ?»«
Je le pense, monsieur, » répondit celle-ci en souriant.
S'il avait voulu appeler à son aide pour cette constatation d'identité un des détails si connus de l'ex-mistress Gobson, détail signalé par le docteur O'Neill dans son rapport d'autopsie, le magistrat eut aperçu, à travers ce sourire, le léger vide qui existait dans la superbe denture de la jeune femme. Mais il n'y pensait guère. Le doute même ne lui était pas permis.
« Vous arrivez bien à point, madame, » reprit-il, « pour empêcher un irréparable malheur. » En attendant que la justice est avisée, veuillez, je vous prie, nous expliquer votre longue absence.
Volontiers, monsieur, mais pas ici, fit-elle en rougissant.
Monsieur Mortimer comprit que celle dont tout New York connaissait les mœurs légères avait peut-être à faire quelques révélations difficiles, et il l'invita à le suivre jusqu'au greffe.
Je suis tout à vos ordres, monsieur, dit Miss Ada, mais James Gobson, qu'allez-vous en faire? Nous n'allons pas le laisser ici.
Oh, je ne m'ennuie pas du tout dans la société du digne monsieur Midler, observa le condamné avec un sourire à l'adresse de son consolateur. Le bon méthodiste ne remercia que par une profonde inclination de tête. Il ne savait plus du tout où il en était.
« Madame, dit le shérif, je ne puis donner aucun ordre à propos du prisonnier. »«
Je le conçois, la loi n'a pas prévu mon cas, interrompit James.
« Il faut, poursuivit le magistrat, que le jugement de condamnation soit révisé, mais j'estime que James Gobson pourra être mis en liberté immédiate sous caution. »
Quelque somme qui sera fixée, je la débourserai, dit vivement la jeune femme. C'est le moins que je puisse faire pour un homme auquel mon absence a failli coûter la vie. À bientôt, James, je l'espère. Viens, Mary.
En disant ces mots, l'ex-mistress Gobson s'était dirigée vers le couloir où M. Mortimer l'attendait. Quant au prisonnier, il avait tendu la main au pasteur en lui disant
« Cela ne m'empêche pas de vous être tout reconnaissant de vos saintes exhortations, mon révérend. Mais c'est égal, vous ne vous attendiez pas à ce qui vient de se passer. » Ni moi non plus, d'ailleurs. Si nous terminions notre entretien spirituel par un verre de brandy.
Les desseins de Dieu sont impénétrables, cher monsieur Gobson, répondit dévotement le brave homme en tendant son verre. Mais gardez toujours le souvenir du danger que vous avez couru, bien certainement pour la punition de vos erreurs.
Oh, je ne l'oublierai jamais, à ma résurrection et à votre santé.
En trinquant avec monsieur Midler, le condamné reprit sur son siège cette position essentiellement américaine dans lequel l'avait surpris sa libératrice. Celle-ci, pendant ce temps-là, disait à M. Mortimer avec qui le directeur l'avait laissé seul dans son bureau.
« À moins qu'il ne soit indispensable de faire autrement, je préférerais beaucoup, monsieur, ne pas avouer les motifs de mon voyage, car ce récit me forcerait à nommer quelqu'un qui désire vivement rester inconnu. Qu'il vous suffise de savoir que cet enlèvement, mis sur le compte de mes assassins, était chose concertée à l'avance, et que j'ai passé les 2 mois et demi qui se sont écoulés depuis cette époque, en partie en mer et en partie à la Havane. Le seul point intéressant pour la justice est que me voilà, vivante et bien vivante. Le reste est de la vie privée, et personne n'a le droit de m'en demander compte, puisque je ne suis pas, ou plutôt, je ne suis plus mariée.
« Vous avez raison, madame, répondit le shérif. Vous avouerez cependant que cela est bien extraordinaire.
Ce qu'il est plus encore, c'est votre singulière erreur. »
L'erreur a été générale.
Non pas, puisque ni M. Gobson ni Mary ne m'avaient reconnue dans cette malheureuse femme.
Vous verrez le moulage qui en a été fait, et vous-même serez stupéfaite.
M. Sanders n'aurait pas dû s'y méprendre.
M. Sanders? Il est à peu près fou. Nous n'avons pu rien en tirer.
Le pauvre homme. Cette nouvelle me peine, vraiment.
Il s'accusait lui-même de votre mort. À le croire, il vous avait tué.
Lui? Autant du moins qu'il était possible de le comprendre.
Mais tout d'abord, j'espère que vous allez me laisser rentrer chez moi.
Sans aucun doute. J'avais fait prévenir M. Davis, le coroner de votre quartier. Dans un instant, il sera ici, et nous remplirons de suite les formalités nécessaires.
M. Mortimer ne croyait pas si bien dire, car au même moment, la porte du bureau s'ouvrit pour laisser passer M. Kelly et Davis. Chez chacun des deux magistrats, l'émotion se traduisait selon leur tempérament respectif. Le gros chef de la police était rouge et congestionné, le coroner était d'une pâleur livide. Après avoir fixé pendant quelques secondes le charmant visage de la jeune femme, ils échangèrent des regards désespérés. Il n'y avait plus à en douter, c'était pour tous deux le ridicule. M. Davis, dont l'esprit élevé ne voyait que l'erreur commise, se demandait avec épouvante ce que serait devenu son honneur de magistrat si l'absente ne s'était pas présentée à temps. Il n'aurait certes pas supporté cette honte. M. Kelly, plus positif, ne voyait dans tout cet étrange événement qu'un échec de nature à entraver singulièrement sa carrière politique. Lorsqu'un peu remis, les deux fonctionnaires interrogèrent Miss Ada, elle leur fit le récit qu'elle avait déjà fait à M. Mortimer.
« C'est fort bien, madame, » lui répondit le chef de police, en domptant avec peine sa colère. « Mais vous auriez pu vous dispenser d'exécuter ce voyage mystérieux. » Que diable! Personne ne pouvait s'opposer à votre départ. Vous étiez bien libre de remplacer ce stupide Sanders comme vous avez remplacé Cornhill. By God! Qui peut être cette femme qui vous ressemblait tant? Elle était même encore plus jolie que vous.
On lui avait donc aussi cassé une dent et déchiré une oreille tout exprès à celle-là, car vous avez une dent de moins et une cicatrice à l'oreille droite. »
L'énorme Kelly était si furieux que, peu galant d'ordinaire, il devenait grossier. Pour toute réponse à ces questions brutales, celle à laquelle il s'adressait lui envoya un gracieux sourire qui découvrit l'écrin où il manquait une perle. Et s'approchant de lui, elle souleva d'un doigt mignon le gros diamant sous lequel se cachait la petite cicatrice qu'elle avait à son oreille rose et délicieusement ourlée. Tout cela avait été si coquettement fait que le bourru fonctionnaire ne put s'empêcher de murmurer.
« Par Saint-Georges, c'est une superbe fille !»
Puis il ajouta en s'adressant à Young, qui assistait muet à cette scène bizarre. « Capitaine, vous allez avec monsieur le shérif reconduire madame chez elle et la remettre en possession de son hôtel. Vous viendrez ensuite me rejoindre à l'office central et vous ferez prévenir monsieur William Doe. Pour cette fois, il a été moins malin que tout le monde. Sa maladresse me coûtera peut-être cher. »
Ne jugeant pas prudent de défendre son ami, le chef des détectives salua militairement et, montrant le chemin à Miss Ada qui avait pris le bras de Mary, il sortit avec elle de la prison. Sur la place, la foule était immense. Elle savait déjà l'erreur commise par la justice, erreur qui eût été irréparable sans l'accident arrivé à l'exécuteur des hautes œuvres. Et ce fut avec des hurrahs enthousiastes qu'elle accueillit la jeune femme. Si le capitaine n'avait pas tenu à distance le plus exalté par ses agents, il aurait certainement dételé les chevaux de la voiture dans laquelle il avait pris place en compagnie de M. Mortimer, de Miss Ada et de Mary. Se doutant bien qu'une réception toute différente l'attendait, M. Kelly s'était empressé de prendre un autre chemin avec M. Davis.
« Dieu soit loué, » dit le coroner en franchissant le seuil des Thames. « Je ne me serais pas pardonné cette erreur. »«
Par Saint-Georges, moi, » soupira le chef de la police. « Ce que je crains, c'est que mes électeurs ne me la pardonnent pas. Que le diable emporte William Doe !»